pied sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Au nombre des pédagogies alternatives disponibles sur le marché de l'éducation différente, il y a les écoles inspirées de la pédagogie de Rudolf Steiner, les écoles Montessori, la méthode Freinet ou de Crolli, les écoles libres, les écoles dynamiques, les écoles démocratiques. Dans ces dernières, par exemple, les enfants sont libres de faire exactement ce qu'ils veulent, à la seule condition de ne pas déranger les autres. L'idée est de ne rien imposer, pas de programme, même pas les professeurs, dont les candidatures doivent être approuvées par les élèves. Il n'y a pas de classe, pensez bien, pas de niveau, pas d'hiérarchie entre les apprentissages, simplement des activités ou des projets suggérés par les enfants, des interactions, des motivations, des prises de parole. Chaque personne a une voix qui compte de la même façon, que ce soit un enfant de 4 ans ou un adulte enseignant, d'où l'idée d'un apprentissage de la démocratie, du vivre ensemble, une école pour apprendre à devenir un adulte citoyen responsable. Dès son arrivée, un petit garçon de 5 ans y avait découvert un trapèze qui lui avait beaucoup plu. Pendant un an, il s'y est consacré exclusivement et n'a donc rien fait d'autre que du trapèze. Puis il s'est lassé et a voulu passer à autre chose, un autre projet pour lequel il avait besoin de savoir lire. Ce qu'il a appris à faire en un mois. C'est un exemple. Une des dernières arrivées dans le paysage, c'est l'école Domaine du Possible, créée dans un immense domaine agricole non loin d'Arles par Françoise Nissen et son mari Jean-Paul Capitani. Le Domaine du Possible prend dans chacune des pédagogies précédentes ce qu'il y a de mieux ou de plus adapté à l'enfant, dans un esprit tourné vers la nature, l'apprentissage des langues, la coopération. On y monte à cheval, les enfants jardinent, dansent, en gros, c'est une utopie d'école qui accueille pour l'instant une centaine d'enfants et d'adolescents. Aujourd'hui, dans les pieds sur terre, on fait le bilan. Les adultes passés par ce genre d'établissement, plutôt au XXe siècle, racontent l'effet que ça fait des années plus tard et les souvenirs qu'ils gardent d'avoir été dans des écoles différentes, qu'ils ont aimées ou pas. Les histoires racontées par Sophie Knapp, jusqu'à 14h dans Les Pieds sur Terre sur France Culture.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
J'ai grandi à Paris et j'ai été dans une petite école privée du coin. Et ensuite, l'année d'après, j'ai été à l'école primaire du quartier. Et là, cette école publique, je trouvais que c'était très dur, très rude. Les enfants étaient très agités, très tendus. Je ne comprenais pas comment les enfants fonctionnaient. Donc j'observais pendant des heures dans la cour. Et on avait une maîtresse qui était vraiment de la vieille école, qui s'appelait Madame Lagoutte, et qui était tout le temps furieuse contre moi parce que j'avançais pas comme elle le souhaitait, donc elle voulait que je travaille à la maison, visiblement, ce que je ne faisais pas. À la sortie de l'école, elle me disait que elle allait mettre des caméras et des vidéosurveillance pour être sûre que je travaillais. On a découvert, en tout cas, que j'étais dyslexique. Peut-être c'est pour ça que j'avais tant de mal à écrire avec des stylos plumes. J'étais gauchère et dyslexique. Donc, l'année suivante, ma mère a décidé de me mettre dans une école différente. Elle avait dû lire Libres enfants de Summer Hill, ça l'avait beaucoup inspirée. Et elle s'est dit que non, ça n'allait pas du tout, j'étais trop malheureuse dans cette école, il fallait me sortir de là. Et effectivement, je commençais à être très 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 dépressive, très angoissée. Et quand je suis arrivée dans cette nouvelle école, qui était une école à la pédagogie vraiment diamétralement opposée, c'était une école Steiner, j'ai retrouvé la joie de vivre. Vraiment, quoi. Je me souviens de l'atmosphère de l'école en général, de la surprise de voir que les enfants jouaient entre eux, qu'il n'y avait aucune énergie électrique, énervée. Et tous les enfants avaient des passions, et ça les portait beaucoup, en fait. Et donc, il n'y avait pas de chamaillerie, il n'y avait pas de clan. Dans cette école-là, Steiner, on nous racontait beaucoup d'histoires. on chantait beaucoup de chansons en allemand. Il y avait beaucoup de manipulation d'objets. On écrivait dans des cahiers blancs avec des crayons de couleur. Et on nous enseignait l'agriculture, comment poussait le blé, les champs, les moissons, etc. Il y avait tout un tas de choses qu'on devait apprendre à travers ça. Au niveau de l'écriture, c'était plus simple, plus libre. C'est-à-dire qu'on nous laissait avoir ce goût et ce désir d'écrire. Mais peut-être qu'on ne nous corrigeait pas nos fautes d'orthographe, etc. On laissait l'envie d'abord prendre le pas sur l'orthographe. En fait, dans cette école, je suis restée qu'un an, puisqu'après, elle a déménagé en province. C'était trop loin. Mes parents ont trouvé une école qui était plus proche, École Bossuet, établissement privé expérimental, qui était une école Montessori. Quand je croisais des anciens élèves de l'école publique, ils me regardaient comme une pestiférée en me tournant autour et en disant « Ah, t'es dans une école bizarre, c'est une école bizarre. » Voilà. Et dans cette école Steiner et après Bossuet, c'est pas du tout important. À Bossuet, il y avait tout type de religion, il y avait même un enfant autiste et la différence était acceptée. Alors que dans l'école publique, c'était stigmatisant. Donc la rentrée à Bossuet était assez drôle parce que j'arrivais la première année où l'école devenait mixte. Il n'y avait que des garçons. Donc je crois qu'on était deux filles, peut-être trois. À Bossuet, on était beaucoup plus autonome. Il y avait des boîtes avec des fiches pour le français, pour les maths, pour la géométrie. Chaque semaine, on faisait son emploi du temps en groupe. Donc on le faisait chacun, puis après on l'exprimait. On était toujours assis par terre, déjà. On l'exprimait à la maîtresse, on appelait ça la maîtresse. Et là, elle disait, bon, là, c'est pas très équilibré. Agnès, tu passes beaucoup de temps en peinture, c'est très bien, mais il faudrait que tu ailles un petit peu plus en français ou un petit peu plus en maths, etc. Et donc, il y avait en bas, au rez-de-chaussée, une grande salle pour la peinture et le modelage, où je passais effectivement énormément de temps. Puis après, moi, j'allais dans l'atelier de Thérèse, en peinture, et puis un peu à la bibliothèque. Et voilà, et on organisait nos semaines comme on l'avait planifié chacun. Nos semaines étaient notées. On faisait un bilan de la semaine d'avant avec des petites histoires de soleil. Un soleil, deux soleils, trois soleils. Cette école s'arrêtait en CM2. Donc on savait que ça allait se finir, que c'était bientôt la fin. Après, la difficulté a été l'entrée en sixième et la scolarité, somme toute, classique du collège. Dans mon souvenir, on nous en parlait, c'était une inquiétude de savoir si on allait réussir à s'intégrer. J'ai souvenir de ça, ouais. Enfin, on savait que ça serait différent, mais après, il faut le vivre hein, pour savoir. À l'entrée en sixième, oui, c'était rude. J'ai retrouvé la brutalité de l'école primaire, en fait. Et deux ans après, je me souviens avoir fondu en larmes avec mes parents en disant « c'est trop brutal, c'est trop dur, c'est trop grand, c'est trop agressif, le fait de devoir absolument ressembler à tout le monde. » J'avais envie qu'on m'extrait de ça et j'avais envie de partir en pension, d'aller dans un autre environnement. C'était un effort constant et conscient que d'arriver à m'intégrer.
Thank you.
France Culture, les pieds sur terre.
Alors j'ai commencé dans une école publique, qui était vraiment classique. J'en ai des souvenirs un peu terrifiants parce qu'il ne fallait absolument pas bouger de son pupitre. Et donc tout ce que j'ai comme souvenir, c'est que je regardais par la fenêtre. Voilà. Et je voulais voir les nuages passer et tout ce qui m'attirait, c'était ce qu'il y avait dehors. Ce qui fait que j'ai commencé à être en échec scolaire assez tôt. C'est vraiment le CP, et là, ça a été un choc. De toute façon, dès que je faisais quelque chose, comme je n'avais pas écouté, ça n'allait pas. Donc forcément, ça s'enchaînait. C'était un peu l'effet boule de neige. Dès qu'il fallait répondre à une question, je copiais sur le voisin pour voir de quoi il s'agissait. Et c'était... Après, arrivé au CE1, mes parents m'ont mis dans une école moins conventionnelle, un peu Montessori, quelque chose de beaucoup plus... on laisse l'enfant un peu plus libre. Après, il faut quand même travailler, et c'est là où le bât blesse. C'est que je me retrouvais à nouveau devoir faire des choses que j'avais pas envie. Première image que j'ai, c'était une grande classe, il n'y avait pas du tout de pupitre, voilà, c'était plutôt des tables un peu disposées à droite à gauche, un grand espace central, une bibliothèque, des livres et beaucoup de lumière, des grandes baies vitrées, donc une grande vue vers l'extérieur, ce qui me plaisait assez. Mais voilà, c'était encore intimidant, il fallait rencontrer les autres. Alors déjà pour la semaine, on avait un carnet de bord. Donc il fallait indiquer les matières qu'on allait suivre lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, sachant qu'il fallait faire de toute façon un certain nombre d'heures de maths, un certain nombre de français. Bon, moi j'avais vite compris que de toute façon, on nous laissait le choix de faire notre emploi du temps, mais on était obligé de faire aussi des maths, aussi. Donc ça revenait au même. Enfin pour moi, ça revenait au même de se voir imposer des matières. Donc, pour moi, c'était un peu dans le maquillage que ça changeait. On n'était pas obligé de croiser les bras sur un pupitre, très bien. On pouvait se mettre en rond tous ensemble quand il y avait des lectures à faire, mais ça restait le même apprentissage finalement. Alors moi, j'avais beaucoup de difficultés scolaires. C'est que tout simplement, je faisais un blocage sur tout ce qui était apprendre des maths, apprendre le français, ça ne m'intéressait pas. Sachant qu'en plus, tout le monde était persuadé que j'avais des problèmes de dyslexie, ce qui, à mon avis, n'était pas le cas. C'est juste que je pense que j'étais pas mûr pour rentrer à l'école. Et dans cette école, il y avait une professionnelle orthophoniste qui, entre les cours, prenait les élèves qui avaient des problèmes et faisait des cours particuliers dans une petite pièce. Et là, j'ai vécu les pires moments de ma vie, je crois, parce qu'elle me hurlait dessus. Comme elle voyait qu'elle n'obtenait aucun résultat, que sa méthode pédagogique n'arrivait à rien, le problème, c'était moi, donc elle me hurlait dessus, mais vraiment hurlait dessus. Du coup, je me renfermais encore plus. Et je me souviens de passer une heure régulièrement dans son bureau à ne rien dire, à me renfermer, et elle me hurlait dessus. Moi, je n'en ai jamais parlé à mes parents de tout ça. Quelqu'un se fait battre... et qui n'en parle pas, je comprends. C'est très difficile quand on est enfant de pouvoir vraiment faire la part des choses entre ce qui est normal ou pas normal. Alors dans cette école, on était noté A, B, C, D. Ça s'arrêtait A, B, C, je crois. Voilà. Donc c'était quand même des notes. Donc j'ai été dans cette école jusqu'en CM2 pour ensuite aller dans un collège public. Alors quand je suis arrivé au collège, c'était assez impressionnant parce que c'était un très grand collège, des classes beaucoup plus importantes, et là on retrouvait les pupitres, on était à nouveau les uns derrière les autres. Je me suis mis à nouveau à regarder en dehors par la fenêtre pour regarder les nuages passer. Je me souviens très bien le premier cours d'anglais, où c'était la première fois où je commençais à m'intéresser à ce qui se faisait. Et j'avais trouvé ça vraiment très bien, et j'avais commencé à prendre mes leçons, et j'avais été voir la prof en lui disant « c'est bien, ça a l'air bien l'anglais ». Et puis elle m'a répondu d'un air sévère « et tu vas voir, ça va être plus compliqué ». Bon, et là, ça m'a vraiment découragé, et elle a eu raison, ça a été beaucoup plus compliqué par la suite.
J'ai commencé dans une maternelle classique, et assez rapidement, mes parents se sont vus qu'il y avait peut-être un certain mal-être, ou en tout cas que cet univers-là ne me correspondait pas. Donc ils sont tous les deux profs de yoga, donc il y avait vraiment une attention à l'enfant, essayer de trouver un cadre où l'enfant puisse trouver sa propre voie et s'épanouir selon son propre rythme. Et c'est ce qu'ils ont trouvé dans les écoles Steiner. Alors, le jour de la rentrée, donc rentrée au CP, dans les écoles Steiner, cette première classe, on l'appelle la première classe. Donc, le jour de la rentrée de la première classe, en fait, j'ai encore la sensation de rentrer dans une petite classe proche d'une cour et d'une grande pelouse avec des arbres, certainement des chênes assez anciens, voire centenaires. Et là, au fond de cette classe, il y avait un dessin réalisé par notre enseignante, réalisé à la craie de cire d'abeille. Et c'était l'image d'un renard, un renard roux qui traversait un paysage. Je me souviens de cette image bien particulière et aussi, d'une certaine manière, aussi la démarche qu'avait eue cette enseignante de nous accueillir déjà avec un dessin, et puis après bon, toute la symbolique qu'elle a certainement attachée à cette image-là, sachant que cette enseignante nous a accompagnés pendant 6 ans. Et donc, en fait, l'école était se trouvait au milieu d'un grand parc, donc on prenait soin de ce lieu-là en allant couper du bois dans la forêt qui se trouvait en haut de l'école, ramasser les feuilles. Et puis après, au niveau des pratiques artistiques, il y avait tout un travail au niveau de la matière, au niveau du bois. Le bois qui était sculpté provenait souvent du parc de l'école. Dans l'école où j'étais, il n'y a qu'une seule classe par niveau. Et on était environ 25. Et ce qui est assez particulier, c'est qu'on va rester 12 ans avec le même groupe d'élèves, voire plus si on a fait le jardin d'enfants avec eux, on rajoute 3 ans. Et donc en fait, ça génère des liens particulièrement forts, et ces camarades de classe maintenant, j'ai l'impression d'être encore plus proche d'eux que même mes cousins, où on partage des fondations communes et une façon de comprendre et d'aller à la rencontre du monde. Donc ça tisse des liens très très forts. Donc le matin, on commençait par ce qu'on appelle la période. Donc c'est en fait sur le principe d'étudier pendant 3 à 4 semaines une même discipline. Là, c'était une occasion assez belle de vraiment s'immerger dans un sujet, quasiment de vivre ce sujet-là. Donc, si je pense par exemple à l'enseignement de l'histoire,
Et je prends par exemple la Mésopotamie. Pendant 3 semaines, on a étudié l'histoire antique de cette région du monde, accompagnée par aussi des contes et des mythes. Et la fin de la matinée se terminait par l'enseignante qui nous racontait le morceau d'une légende. Et donc, de jour en jour, on avait la suite de cette légende de l'épopée de Gilgamesh, par exemple. Et donc, j'ai l'impression, en fait, d'avoir vécu ces moments et d'être rentrée en contact avec ces façons de percevoir le monde, donc une façon de percevoir le monde par un habitant de la Mésopotamie, vraiment de manière sensible et vraiment ancrée et concrète. J'ai même la sensation, quand on a rencontré les civilisations grecques, hein, d'avoir encore des sentiments d'odeur, de pierre ou de sculpture qu'on avait pu aller rencontrer dans un musée. Et en fait, ce qui est assez intéressant aussi, c'est que les autres cours, hein, que ce soit le rythmi, donc une forme de danse gymnastique, mais aussi le travail des arts et des artisanats, étaient penser en lien à ce que nous apprenions durant la matinée. J'ai des souvenirs assez incroyables de ce lieu qui était la forge. Et j'ai juste des images et des couleurs qui reviennent de ce passage du métal froid et rigide et solide à un aspect liquide et flamboyant. Et donc j'ai l'impression que c'était une façon de donner un sens au sujet qu'on rencontrait. Chaque classe et donc chaque niveau a sa propre couleur. Par exemple, en première, ça allait être par exemple un bleu ciel. En seconde, à la rentrée, on découvrait une salle de classe qui avait été peinte en orange. Donc vraiment dans cette idée que la couleur correspond à un état psychique et donc l'enfant, par rapport à ce qu'il est en train de vivre à ce moment-là, peut recevoir le bénéfice de cette couleur. Il y a des façons différentes en fait de nommer les classes dans les écoles Steiner que dans le système traditionnel. Alors la maternelle se nomme le jardin d'enfants, c'est un peu la même chose en Allemagne, on parle de Kindergarten. Et après le CP correspond à la première, le CE1 à la seconde et ainsi de suite jusqu'à la 12e qui correspond à la première du système classique, où la scolarité se termine. Et elle se termine par la réalisation d'un chef-d'œuvre. Donc en fait, chaque élève, pendant 6 mois, va développer un projet personnel qui peut prendre la forme qui fait sens pour lui. Alors ça peut être une sculpture réalisée à partir d'un des grands chênes du parc de l'école. Ça peut être une enquête, une chorégraphie. Et donc c'est quasiment comme une sorte de mémoire où l'élève va être accompagné par un adulte qui peut avoir un lien avec le domaine qu'il explore. Il y a beaucoup de fêtes liées aux saisons. Je me souviens en particulier de la fête de la Saint-Martin qui débutait par une déambulation à travers l'école où chaque enfant portait une lanterne qu'il avait réalisée au préalable. Avec un papier souvent transparent ou un papier cristal qui avait une autre apparence une fois que la bougie se trouvait au cœur de la lanterne. Et donc dans la pénombre, on traversait ce cadre assez magnifique et assez verdoyant de l'école. Et donc on se retrouvait tous au milieu d'une petite cour pavée où se trouvait un puits. Et là, il y avait une boisson, il me semble que c'était une boisson avec du lait et du miel. D'une certaine manière, c'est plus des sensations ou des souvenirs de sensations gustatives, d'ambiance, de lumière. Et j'ai l'impression que ça m'a apporté du sens dans la découverte et nommer en fait, tout simplement ces différentes saisons. Donc la nature était présente dans notre scolarité. Déjà, je pense, de par l'enseignement et la façon dont on nous amène à percevoir et comprendre le monde qui nous entoure. J'ai un souvenir, on devait avoir 8-9 ans, d'une culture de verre à soie. Et donc pendant 6 mois, on a accompagné et nourri ces cocons. Il y avait justement un grand mûrier dans l'école, donc tous les jours, on allait cueillir ses feuilles pour s'occuper de ces vers qui, pendant les vacances d'été, sont devenus papillons. All these accidents that happen follow the dot. Coincidence makes sense only with you. You don't have to speak, I feel emotional. Landscapes, they pass on me. The little gets old and you push me up to this state of
inside of me. Every nerve that hurts, you heal deep inside of me. Ooh, you don't have to speak, I feel.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre, des écoles différentes. Un reportage de Sophie Knapp réalisé par Philippe Baudouin. Sandrine Chaperon, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre. Céline Autin, c'est notre stagiaire. Merci pour cette émission à Agnès, à Alexis, à Anaïs et à Philippe.